Vincent Desureaux. Un animateur pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense. Il analyse. Il commente. Il partage. Vincent Desureaux. Cube Radio.
Bon début d'après-midi, bienvenue à l'émission. Vincent Desureaux qui prend la relève jusqu'à 15h. Hein, c'est déjà la fin du mois de juin, dernière journée, il me semble, là, l'été. Ça passe en un clin d'œil. Et ce sera le cas pour juillet et août. Là. Alors, faudra en profiter. C'est le long week-end qui arrive. Je ne sais pas si vous allez célébrer la fête du Canada ce soir ou en fait plutôt demain. Là. Donc, demain, les festivités qui auront lieu un peu partout. Il annonce plutôt beau. Alors, c'est ça, la bonne nouvelle. Moins bonne nouvelle pour les voyageurs. J'en parlais tantôt avec Alexandre, mais j'écoutais tantôt à LCN... Jean Lapointe, on sait, le pilote, expert en aviation civile, qui disait, lui, il était dans des gros aéroports toute sa vie. Il dit, ce sera des mois avant de se calmer, avant de revenir à la normale, c'est-à-dire un niveau de confort assez minime. Là. Faut pour dire, c'était pas 5 étoiles, là, voyager en avion de nos jours, même avant la pandémie et même avant le rebond comme ça des voyageurs. Mais je pense que Air Canada avait plus le choix que de réduire le nombre de vols. Ce que moi, je pensais depuis plusieurs jours à dire, ben là, ils acceptent trop de vols, bien plus que ce qui peuvent gérer. C'est le cas d'Air Canada, c'est le cas de d'autres. Quoique, pour certaines compagnies, ça semble mieux aller. Alors, bravo à eux. Ça montre que c'était possible aussi de bien gérer les choses et d'y aller à un rythme un peu plus normal. Air Canada a voulu prendre une trop grosse bouchée, puis on se ramasse avec tout un problème. 154 vols annulés par jour. Heureusement, bon, ça touche pas l'international, mais on comprend que pour ceux qui avaient des vacances prévues dans les prochaines semaines, les prochains mois, se faire annuler ça d'en face, c'est assez ordinaire. Et d'autres les ont annulés eux-mêmes. Là, j'ai des gens dans mon entourage, des collègues de travail qui partaient dans les prochains jours, pas des gros voyages là, mais à l'extérieur, au Canada, un petit voyage aux États-Unis, et c'était possible de l'annuler, ben ils l'ont annulé tout simplement. Puis on va aller se promener un peu moins loin au Québec, en profiter. Je pense que ce sera le choix de certains. Et moi, je regardais pour un week-end début septembre, le long week-end qui est là. Je regardais pour le train, pour aller, mettons, à Toronto. Je pense que c'est mieux. Train, première classe, 5 heures, c'est quelque chose comme 150-160 $. Pas mal le meilleur choix que d'aller attendre 3 heures à l'aéroport pour faire un vol un peu plus court. Parce qu'il faut penser à d'autres options ces temps-ci, parce que voyager, ce sera un peu plus dur. Et pour ceux qui prennent la voiture, ben là, tu payes la facture d'essence aussi. Il n'y a pas beaucoup de portes de sortie, à part pour ceux qui ont un beau terrain, une piscine. Ce qui est pas mon cas. Puis là, tu te dis, ben, regarde, on va rester chez nous cette année.
Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Passy.
C'est pas le temps de faire ça.
Bonjour Loïc.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Loïc, je veux commencer par l'Ukraine, parce que dans le dossier de l'île aux serpents, au Snake Island, est un point qu'on suit beaucoup pour la grosseur du territoire, là, c'est une petite île, mais qui a été au centre de beaucoup de combats depuis le début de cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, on comprend que les Ukrainiens ont repris ce terrain-là.
Oui, ils ont repris ce terrain-là. D'après les Ukrainiens, les Russes ont dit non. C'est nous qui sommes partis de notre propre volonté pour bien montrer que on ne s'oppose pas à l'exportation de grains et de céréales par l'Ukraine. Ils n'auront plus, les Ukrainiens, n'est-ce pas, l'excuse de dire qu'on contrôle cette île et le territoire autour.
Mais ils ont quand même, Loïc, il faut saluer ça, une capacité de dire n'importe quoi avec un visage neutre, là, sans aucun problème, en se faisant... Parce que Snake Island, tu vois, là, des panaches de fumée, tu vois qu'ils se sont fait battre, et là, tu dis, ah, ben, en signe de bonne foi, nous, on quitte. Ben oui, c'est ça.
Absolument. Cette île aux serpents est une île qui, dès le début de la guerre, a été occupée par les Russes. C'est un endroit extrêmement stratégique parce qu'elle commande des gisements gaziers sous-marins. L'île en soi a aucune importance, mais les territoires sous-marins autour sont des territoires gaziers extrêmement importants. Et c'est pour ça que la Russie a mis la main là-dessus. Et symboliquement, c'était très important parce que c'est un des premiers territoires qu'ils avaient conquis au début de la guerre. Donc, laisser partir ça, c'est symboliquement très mauvais pour la Russie et c'est totalement faux de dire que c'est pour les grands. S'il y a des gens qui n'en sont pas convaincus, ben ils ont juste à regarder les nouvelles en Ukraine ce matin. Et les Russes ont bombardé quoi? des silos à grains. Ils ont détruit des silos à grains qui pouvaient contenir 40 tonnes de grains. Donc, ça n'a rien à voir avec
non.
ça. S'ils étaient conséquents, effectivement, ils n'auraient pas détruit ces silos-là. C'est tout simplement une excuse.
Est-ce que ça montre quand même, Loïc, encore une fois, les limites? Là, je comprends que les Russes ont eu certains gains dans les derniers jours, les dernières semaines, mais d'être pas capable de contrôler facilement une petite île, ça montre qu'ils n'ont pas capable d'avoir le contrôle aérien du secteur autant que maritime.
Que
ça montre les limites.
C'est ce que disent les services secrets britanniques et les services secrets américains. C'est-à-dire que les Russes ont subi d'énormes pertes humaines et matérielles et que donc leurs bataillons sont un petit peu... ont de la difficulté à avancer. Et c'est ce qu'on voit de toute façon. Les gains qu'ils font sont des gains qui se font à des prix très très élevés, encore une fois en termes d'hommes et de matériel. Et donc effectivement, la Russie a des problèmes. Cependant, attention, la Russie continue à faire du recrutement très actif en Russie et il y a de nouvelles recrues qui vont rentrer dans l'armée très bientôt. Ok, on a emmené plus de 300 000 personnes au front, c'est le tiers de l'armée russe qui est engagée en Ukraine. D'accord, ils ont perdu beaucoup d'hommes, il y en a qui ont été tués, blessés, qui ont déserté, etc. Mais malgré tout, ils vont renflouer les gens qui sont là. La guerre n'est pas terminée. Et malheureusement, c'est ce que dit aussi ce que disent aussi les services de renseignement américains. Attention, Poutine a toujours l'intention de conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Mais pour le moment, c'est vrai, il est freiné. Pour le moment, cette victoire des Ukrainiens sur l'île aux serpents est une belle victoire, et ça montre aussi que les nouvelles armes qu'envoient les Occidentaux sont probablement très efficaces.
On revient, Loïc, sur le dossier de la Cour suprême aux États-Unis, décision qui fait encore jaser.
Est-ce que j'ai le droit de dire que les juges de la Cour suprême, les juges conservateurs, sont une bande de caves?
Ben, écoute, je pense qu'il y aura beaucoup d'Américains qui vont aller, mais de gens partout dans le monde qui seraient d'accord avec toi, là.
Ils ont évidemment passé des jugements sur les armes à feu qu'on peut promener librement en public. Désormais, ils ont passé cette loi sur l'avortement dont tout le monde a parlé.
On dirait qu'ils sont ils sont en mission pour faire reculer les États-Unis le plus possible.
Ah oui, écoute bien, ils viennent de décider que l'agence environnementale des États-Unis n'avait pas le droit de réglementer les émissions de CO2 des entreprises qui fabriquent de l'électricité. Là, tu te dis, attends, non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, disent-ils, c'est très simple. C'est parce que les gens qui travaillent dans ces agences sont pas redevables directement au public, aux électeurs. Donc, il faut que le Congrès leur donne spécifiquement le mandat de s'attaquer au problème du CO2, de réglementer le CO2, pour qu'ils aient le droit de le faire. Et là, tu dis, attends, là, d'abord, vous-même, les juges, je vous signale que vous n'êtes pas directement redevable au public, aux électeurs. D'abord, c'est un bien curieux argument que vous employez là. Vous venez d'employer une... Ils vont dire, oui, mais il s'agit de décisions politiques majeures, n'est-ce pas? Oui, on s'entend. Ils ne sont pas, ça n'a pas été autorisé par le Congrès. Mais là, tu regardes ça, puis tu te dis, mais attendez, c'est parce qu'il y en a plein des agences américaines aux États-Unis. Il y a plein d'agences qui réglementent un paquet d'affaires et ils sont pas spécifiquement autorisés à le faire par le Congrès.
Oui, je pense que si on lit toute la Constitution, on parle pas de gaz à effet de serre là-dedans parce que c'était pas une problématique à l'époque.
Non, puis le Congrès n'a pas spécifiquement donné à toutes les agences des mandats sur toutes sortes de choses très très spécifiques que les agences réglementent. Imagines-tu le nombre de poursuites qui vont s'ouvrir aux États-Unis pour toutes les agences de toutes sortes qui réglementent toutes sortes de choses? Parce que supposément, ce qui est réglementé là a un impact politique majeur. Ils viennent de paralyser d'un coup presque toutes les agences gouvernementales américaines qui vont être réduites à une activité minimale. Minimal. Puis attends, le dossier de l'environnement puis du CO2, c'est pas anodin, là. OK, ça a des impacts politiques majeurs, mais ça a des impacts majeurs sur l'humanité aussi. C'est 25% des émissions de CO2 qui sont émises dans le monde, qui sont émises par les États-Unis. Ça, non, les juges, bon, c'est pas important, ça. Ce qui est important, tu vois, c'est de s'en tenir aux principes. Ce sont des juges fondamentalistes et ils disent que les principes sont que ça devrait être, d'après eux, le Congrès qui donne spécifiquement ce droit-là aux agences, parce que les agences, encore une fois, ne sont pas redevables directement devant devant le public. Là, tu dis non, ils sont fous. Ils sont tombés sur la tête. c'est vraiment du fondamentalisme juridique d'extrême droite, là. Et ça va faire très mal aux États-Unis.
Mais Loïc, j'avais l'impression que dans le passé, oui, les juges de la Cour suprême, des fois, ont des visions, des décisions qui sont pas unanimes, mais j'ai l'impression que tout le monde était courtois et dans le grand respect des postes de juges et tout ça. Là, il doit y avoir toute une division. Il arrive là la première femme noire à la Cour suprême, Ketanji Brown Jackson, et elle doit pas être fière de certains de ses collègues.
Non. Et d'ailleurs, il y a que 25% avant la semaine dernière, donc avant le jugement sur les armes à feu, etc. Il y a que 25% des Américains qui avaient un certain respect pour la Cour suprême. Elle va être encore plus déconsidérée.
Là, ils doivent pas aller prendre une bière ensemble après la job.
Non. Mais je répète. Ils viennent de paralyser le gouvernement américain parce que c'est bien connu, le Congrès est hyper divisé, puis une façon de gouverner, c'était de gouverner à travers les agences pour le président, tu sais, c'est le gouvernement, le pouvoir exécutif du président qui faisait ça. Maintenant, c'est plus possible. Moi, je suis abasourdi par cette décision-là. La Cour suprême des États-Unis, en un jugement, vient d'affaiblir toutes les agences gouvernementales bien plus que ce que Donald Trump a pu faire pendant 4 ans.
Oui, et ça va durer... avant que ça se rééquilibre, la Cour suprême, on en a pour très longtemps.
Ben, c'est parce que ça va casser quelque part. Tu comprends, ça va devenir invivable aux États-Unis. Ils vont rentrer dans une... S'il y a des réglementations, c'est parce qu'il y a des abus, puis que les citoyens ont besoin qu'il y ait des réglementations. Mais si le Congrès dit non, si les juges disent non, il faut que le Congrès en décide, puis que le Congrès n'est pas capable de décider, qu'est-ce qui va décider? Personne. Donc, ça va être la loi de la jungle un peu partout au niveau des agences gouvernementales. Encore une fois, j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu prendre une décision aussi stupide. J'arrive pas à comprendre ça.
Oui, non, on est beaucoup à se gratter la tête, Loïc, ça c'est le cas. Parlons de Hong Kong parce que, en ce moment, on se prépare à l'arrivée de Xi Jinping, donc le président chinois, à l'occasion de certaines célébrations, et ça se fait sous haute sécurité et tension.
Ah, très haute sécurité. Il y a 1000 personnes qui ont été triées sur le volet, qui ont été mises en confinement pendant une semaine avant qu'ils visitent, dont des enfants. Tout frais payé quand même. Et donc, des enfants à qui on a appris à chanter toutes sortes de jolies chansons à la gloire de Xi Jinping et de la Chine, parce qu'on veut présenter à la télé, et c'est ça qui est important, on veut présenter une belle image de Xi Jinping qui visite Hong Kong. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il visite Hong Kong maintenant? Puis je te signale, en passant entre parenthèses, qu'il y a des titres de médias qui sont tout à fait faux. Quand on dit c'est la première visite de Xi Jinping hors de la Chine continentale, c'est faux. Hong Kong fait partie de la Chine continentale depuis 1997. C'est la loi chinoise qui s'y applique. Enfin, c'est l'ordre chinois, c'est les Chinois qui s'occupent de de l'armée. C'est eux qui s'occupent des affaires étrangères. Non, c'est une partie de la Chine complètement, de la Chine continentale depuis 1997. Donc, il va visiter Hong Kong. Pourquoi maintenant? Et c'est ça la vraie question. Il y a des gens qui disent à Hong Kong, oh ben c'est pour montrer combien Hong Kong lui est cher. Et puis non, pas du tout. Ça c'est de la propagande. La raison pour laquelle il va visiter Hong Kong, c'est parce qu'il a besoin de montrer qu'il contrôle Hong Kong, parce que cet été, il y a une grande réunion qui va se passer des très hauts dirigeants du Parti communiste chinois. Ça a lieu à une station balnéaire qui s'appelle Bei Dai He. C'est au bord de la mer, donc, et c'est là qu'allaient les dirigeants depuis l'époque de Mao. Et pendant tout le mois de juillet, les dirigeants font des consultations, prennent un certain nombre de décisions très, très importantes. Et entre autres décisions, ce qui va être pris, c'est de savoir si Xi Jinping peut ou non faire un troisième mandat. Je pense qu'il va faire un troisième mandat. Mais sa visite là-bas vise à le mettre en valeur, à montrer qu'il est arrivé à casser les reins au mouvement démocratique de Hong Kong. C'est pour ça qu'il y va. C'est cette raison, c'est pour cette raison-là seulement.
Parce qu'en plus, il est quand même dans une période difficile là, en Chine. Ouais, ben, ça va très mal, c'est ça, là.
L'économie chinoise bat de l'aile, ça va très très mal. La pandémie a fait très mal à l'économie. Le gouvernement chinois a commis des maladresses incroyables. Tu sais que les gens doivent se faire tester tous les 2-3 jours dans les grandes villes un peu partout à travers la Chine. Figure-toi que, je pense avant-hier, un journal a dit « Oui, ça va être comme ça pendant les 5 prochaines années ».
Oui, ça n'a pas fait plaisir.
Quoi? Comme ça, pendant mes noms, je déménage, je sors, je veux plus rester ici. Et bon, on a biffé ça, on a ôté ça, c'est sorti. Ça va être comme ça pendant un certain temps encore. Là, on a ôté les 5 prochaines années parce que ça faisait trop peur aux gens. Mais les gens sont vraiment pas contents en ce moment en Chine parce qu'ils se sentent en prison, ils se sentent emprisonnés. Ils sont hyper testés, ils sont suivis par les caméras, ils sont écoutés par des haut-parleurs. Tout le monde a dû donner un échantillon de voix, imagine. Tu peux pas être à une terrasse c'est parler contre le gouvernement sans automatiquement que tu perdes des points dans la cote de crédit social que chaque personne a.
On termine en Inde, Loïc, où on s'inquiète d'arrestation, entre autres l'arrestation d'un cofondateur d'un site Internet de vérification de faits. Il faut croire qu'il y a certains en Inde qui n'aiment pas les vérificateurs de faits.
Non, c'est Mohamed Zubair qui est cofondateur en 1917, 2017, d'Alt News, qui est, comme tu disais, un site de vérification de nouvelles. Et en fait, on lui reproche d'avoir troublé l'harmonie religieuse. Pourquoi? Parce que dans un tweet en 2018, il a mis la photo d'un hôtel qui s'appelle un Honeymoon Hotel, puis il a changé ça en Hanuman Hotel. Hanuman, c'est un dieu indien, c'est un dieu singe pour les gens qui connaissent. Ah ben, il y a une plainte qui a été déposée par quelqu'un qui se dit un adorateur de Hanuman. Et donc, il dit, voilà, je me plains contre cette personne-là. Eh ben, ce type vient d'être arrêté, Mohamed Zubair, donc, pour cette raison-là, parce qu'il aurait troublé l'harmonie religieuse. Et en réalité, c'est pas ça le fond du problème. En réalité, c'est un prétexte. En réalité, c'est parce que Zubair est quelqu'un qui critique le gouvernement énormément. C'est lui aussi qui a soulevé, malheureusement, qui a fait lever une polémique parce que il y a quelqu'un qui a parlé de Mohamed en disant que c'était un pédérastre, ce qui est vrai, mais ça c'est une autre question puisqu'il a épousé une fille qui avait 6 ans et il a couché avec elle alors qu'elle en avait 9 ans. C'est dans nos critères modernes, c'est bien le cas. Mais là-dessus, les gens sont descendus dans la rue, ça a effectivement provoqué toutes sortes de troubles. Mais c'est lui qui est responsable de ça parce qu'il l'a révélé, vois-tu. Alors, ça pose un problème. Il y a aussi une autre personne qui vient d'être arrêtée, qui est la secrétaire de Citizen for Justice and Peace, qui est une organisation qui essaie d'aider les musulmans qui ont été victimes de toutes sortes de pogroms, c'est-à-dire des attaques violentes, surtout dans l'état de Gujarat, là où était le premier ministre Modi en 2002. Et qui est des pogroms donc qui ont fait entre 1,000 et 2,000 morts. Mais voilà, elle est arrêtée elle aussi parce que elle nierait aussi à l'harmonie religieuse et ainsi de suite. Ça pose des graves problèmes. Et il n'y a pas que les musulmans qui sont attaqués, soit dit en passant, en Inde. Les chrétiens sont aussi attaqués. Il y a eu près de 200 attaques de chrétiens depuis le début de l'année. Des églises brûlées, des gens violentés, etc. Il y a vraiment, en ce moment, un mouvement nationaliste hindou en Inde qui vise toutes les religions qui ne sont pas hindous. Et ça pose de très graves problèmes.
Mais juste avant la fête du Canada, tu nous donnes... En fait, tes dernières nouvelles nous montrent qu'on est quand même bien ici, chez nous.
Oh, mais attention, on pourrait parler d'autre chose.
Oui.
Je te signale que le CRTC a pris une décision à Radio-Canada sur l'utilisation du mot nègre, parce que ça brise l'harmonie multiculturelle, etc., qui commence à aller dans ce sens-là. Hein. Il y a une espèce de bien-pensance qui est en train de censurer les gens dans notre société et les créateurs aussi, et ça pose un problème.
Ouais, faut surveiller tout ça chez nous. Merci Loïc, bon long week-end, à lundi.
Allez, au revoir.